la messe sera à 18h30 pour ceux et celles qui le souhaitent. Et puis donc l'école d'oraison à 20h30, la dernière séance. Voilà. Je pense que c'est bon. Merci Père Emmanuel.
Mais avec joie, page 6, pour le petit chant de à l'Esprit Saint. Vive flamme d'amour, ô vive flamme, Esprit Saint, embrase-nous. Toi le don du Père, toi la source des eaux vives, toi qui répands la grâce, viens en nos cœurs. Ô vive flamme d'amour. Ô vive flamme, Esprit Saint, embrase-nous. Toi, Père des pauvres, prends pitié de nos faiblesses, toi qui donnes la force, viens en nos cœurs. Ô vive flamme d'amour. Ô vive flamme, Esprit Saint, embrase-nous. Esprit de sagesse, toi l'Esprit de vérité, toi qui nous illumine, viens en nos cœurs. Ô vive flamme d'amour, Esprit Saint, embrase-nous. Voilà, je m'associe volontiers vous pouvez peut-être vous asseoir si vous voulez, pardon. C'est Déatrice, fratresse. Aux remerciements et aux félicitations de sœur Charlotte Marie, et peut-être que j'ajoute un point, il ne faudra pas vous arrêter là. Voilà, et je ne sais pas comment vous allez faire, mais en tous les cas, si vous pouvez prolonger cet effet en étant fidèle, par exemple une fois par semaine à un exercice d'oraison en commun quelque part, eh bien faites-le, je vous encourage beaucoup à faire ça, parce que sinon vous risquez de redémarrer la voiture à chaque fois, tous les 2-3 ans quoi. Voilà, donc persévérez, bravo, mais persévérez encore. J'ai écouté d'ailleurs à ce sujet, pour ce qui est en train de se passer pendant cette école d'oraison et ce qui va se passer par la suite, dimanche dernier, nous avons fêté Sainte Faustine. Enfin, on ne l'a pas trop fêté parce que Jésus a pris la place. Mais Sainte Faustine a reçu de Jésus la phrase suivante que je vous recommande d'apprendre par cœur. Elle est magnifique. Elle dit « Lorsqu'une âme s'approche de moi avec confiance, je la comble de tellement de grâces qu'elle ne peut les contenir toutes et qu'elle les projette sur d'autres âmes. » Je recommence. Lorsqu'une âme s'approche de moi avec confiance, je la comble de tellement de grâces qu'elle ne peut les contenir toutes et qu'elle les projette sur d'autres âmes. Donc vous êtes en train de vous rendre service à vous-même et aussi à plein de gens autour de vous. et une responsabilité, on pourrait dire, de l'oraison aussi pour l'Église, et pas seulement pour son petit soi, pour se dire, est-ce que je progresse dans ma vie spirituelle? Est-ce que je suis un grand saint, ou est-ce que je suis une grande sainte, ou... En fait, c'est pas du tout comme ça, évidemment, que ça se produit au fur et à mesure qu'on avance, mais ça fait beaucoup de bien aux autres. J'ai écouté attentivement les topos de mes prédécesseurs la semaine dernière et la semaine d'avant, et je me suis dit que j'allais expliciter quelque chose d'un petit peu, pardonnez-moi pour le mot, d'anthropologique. C'est un gros mot, mais c'est extrêmement simple ce que je vais dire. Et je vais vous faire une petite confidence, mais je préférerais que les sœurs n'écoutent pas ce que je vais dire maintenant, parce que j'ai peur que ça les traumatise. Mais je vais le dire quand même, mais je vais le dire en me cachant. En fait, je n'aime pas beaucoup la décoration de la chapelle. C'est affreux, hein ? Vous avez prié, vous, pendant ce temps, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Hein. J'aime pas beaucoup la décoration de la chapelle. Mais, dès que j'arrive ici, je suis chez moi. C'est étrange, hein ? En fait, dans le fond de mon âme, je sens que je suis chez moi. Et c'est autre chose que quand Sœur Françoise Elisabeth, très gentiment, ou d'autres sœurs me disent « Mais vous êtes le bienvenu, venez quand vous voulez, Père, vous êtes chez vous. » Ça, c'est une phrase certainement sincère. Mais ce n'est pas ça dont je suis en train de parler. Je suis chez moi, c'est plus que ça. Il y a quelque chose en moi qui est profond et qui dit « Tu es là où tu devrais être. » Vous voyez ? Ça veut dire que dans mon âme, j'ai au moins une superficie et une profondeur. On va même aller un peu plus loin, il y en a quatre en tout, il y a quatre couches. Mais j'ai une superficie et une profondeur. La superficie, c'est l'imagination, c'est-à-dire le fait que esthétiquement, ce que je vois me plaise ou non. L'imagination, du moins dans l'utilisation que j'en fais dans ce petite introduction, l'imagination, c'est le traitement des images. Est-ce que quand je vois quelqu'un, son visage m'est sympathique ou non, par exemple? Ça, c'est imaginatif. Parce qu'il se peut que je me trompe complètement. En voyant une apparence, je me dis, cette personne m'est sympathique, puis dès que je l'entends parler 5 minutes, c'est affreux. Ou le contraire. Une personne qui m'est antipathique, et je l'écoute parler, et je découvre un trésor fabuleux. C'est mieux, dans ce sens-là. Et donc, en fait, l'imagination est la couche la plus superficielle de mon âme. Ensuite, un peu plus profonde, la mémoire. Encore un peu plus profonde, la volonté. Encore un peu plus profonde, l'intelligence. Ce petit schéma est une simplification de l'anthropologie d'Aristote par un auteur que vous connaissez peut-être, Clive Staple Lewis, qui a écrit « Les chroniques de Narnia » et aussi « Tactique du diable », et qui est un petit livre très intéressant, dans lequel il a imaginé des lettres d'un démon expérimenté qui écrit à un démon inexpérimenté pour lui apprendre comment faire échouer un mariage. Et donc, il faut lire le livre à l'envers, vous voyez. On apprend qu'il faut le lire à l'envers. Et le démon expérimenté, Screwtape, dit « Si tu veux faire échouer un mariage, y compris un mariage spirituel dans l'oraison, c'est pareil, si tu veux faire échouer un mariage, maintiens les fiancés dans la partie imaginative. Maintiens-les dans les impressions, maintiens-les dans les choses superficielles en eux, empêche-les de descendre dans l'intelligence, la volonté, qui sont des facultés plus intérieures. » Et donc, quand vous faites oraison, c'est-à-dire quand vous vous tenez en silence, à peu près immobile, même en présence de Dieu, eh bien, d'un seul coup, vos quatre facultés, imagination, mémoire, volonté, intelligence, ne font plus rien. Et elles ne comprennent pas pourquoi il ne se passe plus rien. C'est pour ça que vous avez des distractions. Parce qu'elles elles veulent continuer à travailler. Elles ne comprennent pas pourquoi ça s'arrête. Si, par exemple, on éteignait l'électricité d'un seul coup, là, ben vous chercheriez partout comment rétablir la lumière. Et donc, l'intelligence a besoin, pendant qu'on fait silence, d'un petit biscuit. Il faut donner un biscuit à l'intelligence. Le biscuit de l'intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est un livre. Alors, la Sainte Écriture, ou alors un refrain de chant, un livre spirituel. On n'a pas le temps là, mais parler des lectures spirituelles pour nourrir l'oraison. En tous les cas, il faut donner à votre intelligence un petit biscuit. Bon, il y a des stades plus avancés où votre intelligence sera incapable de travailler. Mais ça, c'est plus tard. Pour le moment, on se dit, l'intelligence a besoin d'un biscuit, je donne un biscuit. Comme ça, elle se calme, elle est contente, elle a une phrase sur laquelle elle peut travailler un peu. La volonté, ce qu'elle aime faire, c'est décider. Donc, vous avez décidé de prier de 8h à 8h15, demain matin, eh bien vous priez de 8h à 8h15. Et si à 12, vous avez une envie folle de vous lever pour faire autre chose, eh bien vous ferez plaisir à votre volonté en disant « je reste jusqu'à un quart, j'ai décidé de rester jusqu'à un quart ». La volonté, elle aime prendre des décisions, il faut lui donner son biscuit. La mémoire, elle est faite pour vous rappeler des trucs. Donc, il faut lui dire « d'accord, j'entends ce que tu m'as rappelé, je le note, on verra ça après ». Je connais même des gens qui ils ont un petit bout de papier, puis quand ils prient et qu'ils pensent à quelque chose, pouf, ils l'écrivent, c'est pas bête. Voilà, ils l'écrivent, comme ça ils sont débarrassés et ils reviennent à Dieu dans l'oraison. Petit biscuit pour la mémoire. Et pour l'imagination, son biscuit, eh bien, c'est que ce soit beau et que tout vous porte à la prière. Une bougie, une icône, ce que vous voulez. En tous les cas, au plan naturel, pour l'instant je ne suis qu'au plan naturel, je ne suis pas encore au plan surnaturel de l'exercice de la prière, au plan naturel, si je fais ça, je repose mes facultés. Le repos des facultés est très important pour la vie d'oraison. Il faut reposer nos facultés d'intelligence, de mémoire, de volonté et d'imagination. Et au bout d'un moment, avec le temps, eh bien, vos facultés savent que ça va être la prière. Et du coup, vous plongez très vite dans la prière. Que les premières fois, c'est très difficile. Et puis au fur et à mesure, ben, les facultés s'assouplissent et puis comprennent que c'est le signal de la prière. Alors elles se calment un peu. Bon. Et puis au plan surnaturel, Dieu a disposé trois choses, trois vertus, les trois vertus théologales, sur trois de vos facultés. Il a déposé la foi sur l'intelligence, il a déposé l'espérance sur la mémoire, et il a déposé la charité sur la volonté. C'est très bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, le don de Dieu n'est pas un don extraterrestre qui vous tombe dessus, mais la foi, l'espérance et la charité sont des dons surnaturels de Dieu qui sont déposés en vous, en s'adaptant à votre complexion intérieure, à votre âme. Votre âme est faite d'une intelligence, d'une volonté, d'une mémoire. Eh bien, les dons de Dieu, les trois vertus théologales, se sont adaptés à chacune de vos facultés. Donc, la foi se greffe sur l'intelligence, l'espérance sur la mémoire, la charité sur la volonté. Et donc, les vertus théologales, comme on dit, font la jointure, si on peut dire ça comme ça, entre mes facultés et la rencontre de Dieu. Donc j'exerce, c'est ça la prière. Saint Augustin a dit, je ne sais pas quelle définition vous donneriez de la prière, mais en tout cas celle de Saint Augustin, c'est que la prière est l'exercice de la foi, de l'espérance et de la charité. Tout simplement. Et donc là, à partir de 21h15, quand on sera dans l'exercice de l'oraison, eh bien, ce sera un moment concentré de foi, d'espérance et de charité. Mais, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire à la première séance, eh bien, c'est toute la journée qu'on vit dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Et qu'en fait, je ne cesse de prier que quand je cesse d'être charitable, quand je cesse de croire et quand je cesse d'espérer. Vous voyez ? Si intérieurement vous insultez quelqu'un à l'intérieur de vous, vous cessez de prier aussitôt. Voilà. Et donc, la foi, l'espérance et la charité en exercice, ça s'appelle la prière. Mais deux problèmes se posent. Et ça, ça permet aussi de revoir un peu les petites notions que vous avez aperçues la fois dernière et celle d'avant. On a deux problèmes. C'est que nos facultés ne sont pas adaptées à Dieu. Dieu est trop différent de tout ce dont on fait l'expérience. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. D'ailleurs, ce mot Dieu, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce mot. En fait, Deus, ou dans n'importe quelle langue, Dieu, ça signifie qui n'est pas minéral, qui n'est pas végétal, qui n'est pas animal, qui n'est pas humain et qui n'est pas angélique. Et du coup, bah, comme il est rien de ce dont nous faisons l'expérience, on l'appelle Dieu. Donc en fait, Dieu est trop grand pour nous. Donc nos facultés ne sont pas adaptées à Dieu, et c'est ça qui produit la nuit, hein, les fameuses nuits, qui fait qu'on ne comprend pas bien comment ça fonctionne, à moins qu'on s'y habitue peu à peu, à force de le fréquenter, tout simplement. Donc mes facultés ne sont pas adaptées à Dieu. Puis j'ai un autre problème, c'est que je suis pécheur, et par conséquent, si dans la prière je me donne à Dieu, si dans la prière je me rapproche de Dieu, si dans la prière je suis à Dieu, et que dans la vie je ne suis pas à Dieu, eh ben ça coince. D'où la souffrance. Parce qu'en fait, quelquefois, quand on présente un peu rapidement, par exemple, les sept demeures de Sainte Thérèse d'Avila dans le château intérieur, on se dit, ben, on n'a pas envie de progresser. Hein, parce que quand on voit les états, le passage du troisième au quatrième demeure, déjà, c'est pas rigolo. Voilà, c'est un peu comme une montagne russe, là, haut le cœur, là, au moment où ça se passe. Et puis, cinquième, sixième demeure, les nuits, la nuit de la foi, la nuit de l'esprit. Et du coup, on se dit, ben, on n'a pas tellement envie. Alors qu'en fait, il n'y a pas plus de souffrance dans l'itinéraire de la prière qu'il y a de souffrance pour progresser dans l'amour tout court et dans l'amour des autres et de Jésus-Christ, si on veut vraiment progresser. Ça m'arrive souvent en préparation au mariage de dire aux époux, enfin, de décrire aux époux les sept demeures de Sainte Thérèse d'Avila en disant, mais il se passe les mêmes choses dans la vie amoureuse et dans le mariage, dans la vie religieuse, c'est pareil. En fait, se donner, c'est se perdre. Une fois que je me suis donné, je me suis perdu, enfin, je ne me suis plus à moi-même. Sinon, j'ai pas tout donné. Alors si je me donne, ben je ne mets plus. C'est aussi simple que ça. Et donc ça veut dire que si on se donne à Dieu et aux autres, eh bien alors forcément il y a un moment donné où ça arrache un petit quelque chose, ça enlève du confort, ça enlève de la facilité, ça enlève... C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre la prière chrétienne et puis le zazen par exemple, hein, qui semble une belle chose par ailleurs, je ne sais pas. Je ne connais pas suffisamment bien, mais le zazen cherche vraiment une absence de passion, une absence de douleur. Ben, la prière chrétienne, c'est de l'amour. Donc, comme c'est de l'amour, eh ben, ça coûte. C'est normal. Un amour qui ne coûte pas, ben, c'est un amour où on change tout le temps d'amoureux. C'est possible, hein, mais du coup, c'est plus vraiment de l'amour, quoi. Et donc l'adaptation à Dieu, c'est de la sanctification. Et alors ce qui fait que on peut dire, j'allais dire grossièrement, mais c'est pas grossier parce que c'est précis, la prière c'est de l'amour, c'est de l'espérance et de la foi aussi, mais la prière c'est de l'amour. Et donc c'est ce qui fait dire à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous l'avez sur votre petit livret, « Je désirerai au ciel la même chose que sur la terre, aimer Jésus et le faire aimer. S'installe dans la vie de prière, en principe, un attachement à Dieu qui fait que ce qui l'intéresse, lui, finit par m'intéresser, moi, parce que nous nous aimons. Je désirerais aussi la même chose que sur la terre, aimer Jésus et le faire aimer. Et donc l'amour devient missionnaire parce qu'on ne peut pas faire autrement quand on aime Jésus que d'aimer ce qu'il aimait, ce qu'il aime. Et il voudrait que son amour soit connu et donc on désire la même chose. De toute façon, même si on ne le voulait pas, ça vient tout seul. Donc voilà. La seule chose que je désire, c'est la volonté du bon Dieu. Lettre à l'abbé Bélière, 24 février 1897. Et donc, petit à petit, on devient un époux de Jésus. Notre âme devient épouse de Jésus. Et ce qui fait que, alors, quand on est à un stade comme celui de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle écrit, ça je ne l'ai pas mis sur le petit livret, mais je l'ai rajouté après, « Vraiment, je suis par trop heureuse, je fais toujours ma volonté. Pourrais-je n'être pas joyeuse et ne pas montrer ma gaieté ?» En fait, elle est tellement branchée sur la volonté de Dieu par amour, que du coup, elle fait toujours que ce qu'elle veut, puisqu'elle ne veut rien d'autre que ce que Jésus veut. Bon, ça c'est un stade très avancé. Voilà. Dans le deuxième topo du frère Anthony Joseph, vous avez entendu parler beaucoup de gratuité. Et donc, sauf qu'il a parlé d'une certaine gratuité, et j'en rajoute une autre simplement. Petit rappel pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, il a parlé de la gratuité de l'amour, ou plutôt l'absence de gratuité, où on dit ben, « c'est bon, j'offre à Dieu une heure d'oraison, eh bien il me doit quelque chose, un peu ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Hein, je fais des efforts, je porte un bel habit marron avec du blanc, tout ça, j'ai un voile sur la tête, tout ça. Bon, Dieu me doit quelque chose quand même. Hein. Le subtil orgueil de se dire « je suis quand même prêtre, il me doit quelque chose ». Bon, ça c'est un premier problème de gratuité. Mais il y en a une autre, il y a une autre gratuité qui est liée à la mission. En fait, comme l'Église, par nature, est missionnaire, eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà participé à des missions d'évangélisation. Dans une mission d'évangélisation, il y a toujours un moment de prière avant, et même des priants qui sont devant le Saint-Sacrement et qui prient pendant que les missionnaires partent deux par deux pour prier. Et en fait, il faudrait que l'on ne considère pas la prière comme une espèce de pression qui fait que Dieu va cogner sur les gens qu'on va rencontrer et qui va les faire devenir chrétiens. Parce que quand même, on a prié pour ça. Et en fait, la gratuité est très importante. En fait, j'aime Dieu dans la prière, j'aime mon prochain dans l'évangélisation, dans la mission, et c'est tout un, y compris si la personne me claque la porte au nez. Ma toute première mission d'évangélisation dans ma toute première paroisse, eh bien, je suis arrivé dans le tout premier village, la toute première porte, je sortais de l'église, je venais de prier, je frappe à la porte, il y a un monsieur qui ouvre la porte, puis je lui dis « Bonjour, je suis de la paroisse et je viens vous rencontrer ». Et il m'a répondu « Ça ne m'intéresse pas ». Et il a fermé la porte. Voilà. Je t'aime, moi aussi. Voilà. Et en fait, j'aime Dieu, j'aime celui à qui je parle, et je ne produis pas dans la mission, la conversion de qui ou de quoi que ce soit. Voilà. Et nous avons d'ailleurs une très belle surprise dans l'Église de France depuis quelques années, vous savez, là, depuis 2-3 ans. On a un afflux de catéchumènes d'un seul coup, là, à la cathédrale Saint-Cernin de Toulouse. Il y a actuellement 272 catéchumènes. C'est dingue, hein, 272. Dans la région parisienne, c'est des chiffres énormes. On ne sait vraiment pas d'où ils viennent. Pourquoi ça a explosé? Ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas se l'attribuer. Ce n'est pas parce qu'on est plus saint depuis 2-3 ans. Ça, c'est sûr. Enfin, à moins que, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, il y a quelque chose de complètement gratuit. Et Dieu nous fait une bonne leçon de gratuité. Et puis, au fur et à mesure que je m'attache à Jésus dans la vie de prière, j'éprouve ce que Thérèse d'Avila, dans l'Enfant Jésus, a écrit dans le manuscrit A. Vous l'avez dans votre petit livret. Je fus frappé par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvais une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur, « J'ai soif ! » Voilà. Et donc il y a comme une espèce de mouvement naturel, puis je vais m'arrêter là parce que faut qu'on puisse discuter ensemble, surtout à la quatrième session. Le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui est un carme, a écrit un pavé qui n'est pas très facile à lire, mais dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de très belles choses sur l'itinéraire de quelqu'un qui veut se lancer dans l'oraison de manière un petit peu sérieuse. En fait, il a rencontré trois femmes qui sont venues le voir, qui avaient voulu rentrer au Carmel, et puis qui s'étaient aperçues que ce n'était pas leur vocation. Et donc, elles sont allées voir le père Marie-Eugène, qui à ce moment-là était simplement un carme connu dans le paysage carmélitain français, et ils lui ont dit, est-ce que vous pouvez nous apprendre à vivre du Carmel sans être carmélite? Ce qui est exactement ce que vous êtes en train de faire, en fait. Peu ou prou. Et donc, eh bien, le père Marie-Eugène a commencé à leur faire une instruction, 2, 3, 4, et puis tout le reste de sa vie, il a instruit donc les consacrés de l'Institut Notre-Dame de Vie, et puis ensuite les prêtres et tout ça. Et il a écrit 2 livres qui aujourd'hui n'en font plus qu'un, sous le titre « Je veux voir Dieu ». Voilà. Alors « Je veux voir Dieu » est une citation de sainte Thérèse d'Avila, enfant, hein, « Quiero ver a Dios »,« Je veux voir Dieu », parce qu'elle est partie, elle a entendu dire que des chrétiens se faisaient trucider par des infidèles au sud d'Avila, puis elle est partie au nord d'ailleurs, bon, elle était petite, mais en tout cas voilà, elle est partie avec, elle a entraîné son frère ou son cousin, son frère, je ne me souviens plus si son frère ou son cousin, elle a pris son frère avec elle, et puis elle a dit, il paraît que pour voir Dieu, il faut mourir, donc je pars contre les infidèles, je vais mourir, et comme ça, je verrai Dieu, je veux voir Dieu. Donc ça, c'est l'enfance de l'art de la prière. J'ai le désir de Dieu, j'ai le désir d'être à Dieu, je veux voir Dieu. Et puis la deuxième partie, où il étudie comment une âme qui veut voir Dieu progresse dans la vie spirituelle, ça, il l'a appelé « Je suis fille de l'Église », qui est aussi une citation de sainte Thérèse d'Avila. « Io soy hija de la Iglesia ». Je suis fille de l'Église. Et qu'en fait, petit à petit, à force de chercher Dieu, eh bien, on finit par savoir que le projet de Dieu, c'est l'Église, c'est-à-dire une épouse bien-aimée à qui il se donne et qui se donne à lui pour intégrer toute l'humanité dans son projet d'amour. Donc il y a une espèce de passage naturel de la prière à la mission. Et aussi, quand on est dans la mission, l'appel constant de la prière. Et que plus on est dans la mission, plus il est nécessaire de prier. Comme la poule et l'œuf. Voilà. Ça va. Alors il y a une charmante hôtesse qui va passer au milieu de vous maintenant avec un micro.
Merci beaucoup, Père. Alors, avez-vous des questions ou des remarques ou tout ce que vous voulez ?
Merci. Ma réflexion va vous surprendre peut-être. Mais je trouve un petit peu vite fait de dire que la chapelle est superficielle. J'avais cru comprendre que le temple, l'église, c'était nous-mêmes. Et moi, il m'arrive de prier dans le train, en vélo. Je ne cherche pas le décor. Et je préfère être ici. Pourquoi ? Parce que c'est très simple. Depuis quelque temps, c'est vrai, nous sommes bien entourés sur la droite. Mais il y a une immense croix. Je suis bien mieux que dans une vieille église sombre où il y a 40 saints et je ne sais même pas comment ils s'appellent tous. C'est du décor.
Oui, bien sûr. Alors, je me suis sans doute mal exprimé, pardon. En fait, ce qui est superficiel, c'est mon goût. Vous voyez ? C'est pas la chapelle, bien sûr. C'est très important qu'il y ait une décoration, bien sûr. Au contraire, il me semble que j'ai dit d'ailleurs après que notre imagination, notre âme sensitive, dit Aristote, a besoin d'un décor. Nous avons besoin d'un décor, bien sûr. Même si en fait, je pense qu'à un moment ou à un autre, dans le train, dans le métro, n'importe où, on doit pouvoir prier avec un peu d'habitude. Mais en tous les cas, ce qui est superficiel, c'est mon goût, vous voyez. C'est la partie superficielle de mon âme apprécie ou non l'ardoise, par exemple. Voyez, ben ça, c'est une question de goût. C'est très superficiel. C'est pas profond. Voyez, mais c'est hyper important d'être dans un endroit où on est bien. Voyez, bien sûr. Mais on s'en affranchit peu à peu, il me semble, avec de l'habitude. J'ai même fait une expérience qui m'a beaucoup enseigné. Providentiellement, je faisais un camp avec des guides aînés, donc des jeunes filles scouts de 17 à 22 ans, et on s'est retrouvés dans la basilique souterraine de Saint-Martin de Tours. Et en fait, on a décidé de faire un temps, c'était dans la pédagogie des guides aînés, de faire un temps de recueillement, voilà, on appelle le moment lumière. Et donc on s'est mis là, imprudemment, et en fait il y avait plein de touristes qui passaient tout le temps, sans arrêt. Touristes qui passaient devant nous. Et au début, ça me dérangeait beaucoup. Et jusqu'au moment où j'ai arrêté, je crois que le frère Anthony Joseph vous en a parlé un peu, l'indifférence aux distractions, tout ça. En fait, au bout d'un moment, j'ai même intégré ces gens dans ma prière. J'ai prié pour eux. Je me suis réjoui de voir passer ces gens devant moi. Ben, ça change tout, hein. Et en fait, je faisais à ce moment-là l'expérience que Sainte Thérèse d'Enfant Jésus a raconté dans le manuscrit A, dans lequel elle dit que il y a peut-être B, dans lequel elle dit que il y avait une religieuse qui tapait avec son pied là. Bon, et puis au bout d'un moment, elle s'est dit, mais finalement, c'est devenu pour moi une douce mélodie. Ta-da-dam, pam, ta-da-dam, ta-da-dam, pam, ta-da-dam. J'ai un prêtre là où je suis à Saumur, il passe 1h15 de déjeuner, comme ça. Mais c'est une grâce. Hein. Enfin, la première fois, quand vous faites attention à ce qui c'est terrible. Hein. Mais au bout d'un moment, on n'écoute plus, et puis on se dit, j'aime mon frère. Bon, voilà. Non, c'est ça que je voulais dire par la superficie. Hein. Je parlais de la superficie de mon âme à moi. Et pas du tout de la chapelle, bien sûr. faire semblant de la trouver jolie. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Tant pis, c'est comme ça.
Merci Père pour ce bel enseignement encore. Merci de faire de la pub pour Je veux voir Dieu, qui est en vente ici. Il faut vraiment le lire. Et en vous écoutant, ce n'est pas seulement de le lire, mais de le vivre. Vous l'avez bien dit au départ. Quand j'essaye de résumer à des proches ce livre, j'essaye de dire, et vous allez me dire s'il faut... À un moment donné, l'annonce de l'Évangile arrive par nos oreilles physiques, arrive par des yeux, la beauté de Jérusalem, la beauté du Vatican, ou le témoignage d'un prêtre, etc. Et à un moment donné, quand Dieu voit que nos sens ont annoncé, ont reçu la nouvelle, c'est nos sens intérieurs qu'il demande. Donc c'est à nos yeux d'amour de le voir, c'est à nos oreilles d'amour de l'écouter. Donc je sais que ce n'est pas dans une conférence qu'on le découvre, mais en le pratiquant. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Merci.
Vous avez parlé très vite, ce que je crois avoir compris, c'est que, en effet, le père Marie-Eugène parle de l'organisme intérieur. En fait, on a un organisme, c'est l'organisation de nos organes, c'est le corps. Le corps est un organisme, parce que nous sommes composés d'organes, et il y a un organisme surnaturel en nous, et cet organisme surnaturel, c'est un appareil, entre guillemets, qui est déposé par la grâce du baptême, et qui fait qu'on est, on peut s'adapter à Dieu. Voilà, c'est l'adaptation à Dieu dont j'ai parlé, mais qui n'est pas évidente, parce que nous sommes attachés au monde, nous sommes attachés à notre petite personne, tout ça. Pour résumer, je veux voir Dieu, moi j'utiliserai peut-être une autre façon de faire, mais vous avez peut-être raison. Hein, enfin, moi je dirais plutôt que à Sainte Thérèse d'Avila, le père Marie-Eugène a emprunté la structure du livre. En fait, le squelette du livre, c'est Sainte Thérèse d'Avila. La professeure d'oraison, c'est Sainte Thérèse d'Avila. C'est elle qui met les bases... les demeures, tout ça, comment on progresse, Sainte Thérèse d'Avila. À partir des quatrièmes demeures, c'est à partir du moment où on passe de la méditation à la contemplation, ça c'est une grâce que Dieu donne, il la donne ou il la donne pas. Enfin, ça c'est lui qui fait. Il y a un moment donné où Dieu fait le cadeau de ce qu'on appelle la contemplation. C'est le quatrième demeure. Et donc, Saint Jean de la Croix se voit confier les états les plus subtils, les plus délicats, les plus douloureux, même compliqués, où il faut qu'on distingue ce qui est de l'ordre psychologique, ce qui est de l'ordre spirituel, tout ça. Donc c'est au Saint Jean de la Croix. Quand ça se gâte un peu, quand ça se complique, Saint Jean de la Croix. Et puis Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est un petit peu répartie partout quand il y a besoin d'une intuition géniale. Cette petite jeune femme était incroyable de, je sais pas comment dire, il y a une sorte de génie un peu. Elle a été très vite parce qu'elle est morte très jeune et Dieu lui a fait un tas de cadeaux. Et donc il répartit, quand il a besoin d'explicitation de certains états d'oraison par une jolie formule ou par une intuition profonde, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai perçu Je veux voir Dieu. Mais voilà. Mais en tout cas, ce qui était le plus important pour ce soir, à mon avis, c'est que, en fait, là tout de suite, quand on va faire oraison, on va se préoccuper d'aimer, c'est tout. On se préoccupe d'aujourd'hui et maintenant de notre relation avec Dieu. Point. Sans se demander si on va progresser du niveau 1 au niveau 2, au niveau 4, je sais pas quoi, vous voyez, enfin, on se préoccupe pas de ça, c'est gratuit. On offre gratuitement à Dieu du temps pour qu'il puisse transformer notre âme, et on le fait gratuitement parce qu'on a confiance en lui. Et puis demain, on recommencera. Puis voilà. Puis après-demain, on recommencera. Par contre, attention, si vous n'avez pas du tout, je ne sais pas les uns les autres ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, si vous n'avez pas la pratique régulière de l'oraison et que vous ne savez pas trop comment faire, eh bien, Bon, mercredi prochain, vous allez être encore entretenu par le topo du padré, de l'autre, là, de Don. Voilà. Mais ensuite, continuez. Ensuite, continuez. Au nom de votre âme et au nom du Seigneur, j'ai continué. Comme vous voulez, mais continuez.
Est-ce qu'il y aurait encore une question ?
Ils sont pressés de prier. Alors,
il va.
Nous ne sommes que des serviteurs. Page 4. Que rien ne te trouble, ô mon âme, que rien ne t'épouvante, ô mon âme, Dieu seul suffit, Dieu Dieu ne change pas, ô mon âme. La patience obtient tout, ô mon âme. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de rien.